toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre émission, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Émission préparée ce matin par Samuel Bernard, aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. Nouvelle série donc consacrée aux travailleurs de la terre. Mardi, nous nous demanderons quels pourraient être les modèles agricoles qui permettront d'allier respect de l'environnement tout en nourrissant l'ensemble de l'humanité. Mercredi, nous partirons en Amérique latine pour parler de réforme agraire. Jeudi, nous parlerons d'accaparement des terres. Mais aujourd'hui, alors que la nouvelle politique agricole européenne est en pleine renégociation et que la situation des agriculteurs ne cesse de s'aggraver, vivre de la terre aux racines du malaise paysan, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Tout va mal.
Envie de prime, c'est pas normal. On devrait vivre de son travail, de fruits de son travail.
Je voudrais, oui, faire passer le message comme quoi il n'est pas normal que nos agriculteurs souffrent.
J'ai moi-même, il y a 3 ans, été choquée par un collègue qui a voulu mettre fin à ses jours. Et j'ai dit, là, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse pas vivre de notre métier.
Et tout se casse la gueule. Il y a 3 ans, moi, je vendais des veaux, 300 euros, des veaux au Steyn. Aujourd'hui, on les vend de 50 à 70 euros. Il y a quand même un malaise.
Je suis sur les routes pour rencontrer les agriculteurs, pour les écouter, remonter tout ça, parce que eux, hélas, ils n'ont pas le temps aussi d'aller sur les ronds-points, ils n'ont pas le temps de manifester de par leur travail journalier.
Depuis plusieurs semaines, Patrick Morin, qu'on entendait à l'instant, est l'une marmande et agriculteur de son état et sur les routes pour interpeller les politiques mais aussi l'opinion publique sur le phénomène des suicides des agriculteurs. Depuis plusieurs semaines, il rencontre des agriculteurs, recueille leurs témoignages, leurs doléances qu'il espère porter auprès du président de la République. Selon l'agence Santé publique France, on compte un suicide d'agriculteur presque tous les 2 jours, l'une des illustrations de l'augmentation du malaise qui pèse sur les campagnes. En cause, une situation économique désastreuse. En effet, en 2016, les chiffres de la mutualité sociale agricole révélaient que les agriculteurs ne gagnent en moyenne que 1250 euros par mois, avec une très grande disparité selon les situations. En effet, près de 30% d'entre eux ont touché de moins de 350 euros mensuels cette année-là, et même 20% d'exploitants ne se sont même pas versés de salaire. Alors comment en est-on arrivé là? Comment comprendre ces inégalités et les ressorts de cette souffrance sociale qui monte dans le monde paysan? Quelles sont les responsabilités des politiques publiques européennes et en particulier des évolutions de la politique agricole commune, la fameuse PAC? D'ailleurs, l'Europe est-elle, comme d'aucuns le laissent entendre, la grande faucheuse qui enterrerait ses paysans un à un, et à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir? Pour évoquer toutes ces questions, 2 invités. D'abord, ici, en plateau avec moi à Paris, Pierre Bitoun, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue à l'INRA, l'Institut National en Recherche Agronomique, et puis auteur de cet ouvrage, Le Sacrifice des Paysans, une catastrophe sociale et anthropologique, avec Yves Dupont, qui était paru aux éditions L'Échappée. À nos côtés également, mais depuis Nantes, en duplex, bonjour Vincent Châtelier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également ce matin. Vous êtes économiste, vous, à l'INRA, donc on aura donc les deux regards, celui de l'économiste et celui du sociologue. Je vais commencer avec vous, Pierre Bitoun. Vous entendiez le témoignage de cet homme qui, depuis des semaines, est sur la route et il disait notamment, ils n'ont pas le temps d'aller sur les ronds-points, les agriculteurs. C'est vrai que ces dernières semaines, on n'a pas tellement entendu ce malaise paysan dans ces manifestations qui traversent notre pays depuis des semaines. Par ailleurs, les principales revendications que l'on entend également ne sont pas des revendications spécifiques au monde agricole. Les agriculteurs sont les grands oubliés de cette crise des Gilets jaunes.
Pas forcément les grands oubliés. Moi, j'habite Tours et dans les manifestations des Gilets jaunes qu'il y a maintenant depuis 14 semaines, il y a des agriculteurs qui sont présents, pas forcément avec leurs tracteurs, mais j'en connais qui viennent très régulièrement aux manifestations.
On les entend pas beaucoup. On les entend pas beaucoup.
C'est vrai qu'ils sont pris par un rythme de travail absolument dantesque et épuisant, qu'ils n'ont pas souvent la possibilité de venir, mais certains quand même le font. Et parmi les choses que vous évoquiez là en intitulé ou en introduction, vous avez rappelé cette affaire des 350 euros que tirent près d'un tiers des agriculteurs.
C'était les chiffres pour 2016 de la mutualité.
Voilà, de la mutualité sociale agricole. C'est 350 ou 354 euros, c'est environ un tiers des agriculteurs. Chiffre mensuel, et ça n'est pas leur revenu, c'est le revenu qu'ils tirent de leur activité. Bon. Premier point. Autre chiffre qui me semble très important, c'est celui des retraites, parce qu'il y a là aussi pas mal de personnes qui se suicident à l'âge de la retraite. Les retraites des agriculteurs sont totalement indécentes, et ça depuis des décennies. Vous avez des tas de gens qui, après 40, 44 ans d'activité et d'activité épuisante, se retrouvent à 800, 900 euros, grand maximum. Et là, la question est de savoir qu'est-ce que c'est que ces chiffres, qu'est-ce qu'ils cachent comme réalité, et est-ce que ces chiffres sont, au fond, correspondent à une société, à un monde qui se dit très sérieux, qui s'occupe des paysans, etc., mais qui ne l'est pas du tout. Ces chiffres sont en eux-mêmes un scandale et qui éclairent. Il y a plein d'autres raisons aussi extra-économiques, mais il faut absolument que cela change pour que les conditions, à la fois les conditions de vie et la réduction des faillites, des suicides, se fassent. Et pour l'instant, on n'en prend absolument pas le chemin.
On a titré l'Europe aux racines du malaise paysan. On se rend compte tout de suite en vous entendant qu'au fond, le terme malaise n'est peut-être pas suffisant. Vous parlez, vous, de désastre, vous parlez de catastrophe. C'est bien plus grave que ça. Vincent Châtelier, peut-être une réaction aussi avec l'actualité des gilets jaunes que j'évoquais. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au fond, malaise, c'est largement insuffisant pour parler de la situation aujourd'hui? Alors, les agriculteurs français, bien sûr, mais en réalité, en Europe, on voit qu'il y a plus qu'un malaise, une forme de catastrophe sociale qui est en train de se jouer. Vincent Châtelier.
Sur la participation des agriculteurs aux Gilets jaunes, vous avez raison de dire qu'ils sont peu présents globalement. Et au niveau syndical, il n'y a pas eu de relais très puissant pour, je dirais, prendre la route des Gilets jaunes. Les agriculteurs sont peu présents dans le débat, même si, bien sûr, il y a des agriculteurs qui, à titre individuel, participent à ce mouvement. Le malaise sur l'agriculture, il n'est pas nouveau. En préparant cette émission, je regardais des manifestations des années 70. Ils étaient 100 000 à Bruxelles. Et moi, je suis arrivé à l'INRA un peu après M. Bitoun en 92. Et depuis maintenant plus de 25 ans, on entend régulièrement parler de ce mot malaise. Alors c'est une réalité sociologique profonde qui a des vraies racines économiques. Mais il y a aussi des agriculteurs heureux. Donc comme on va consacrer l'émission au malaise, je voudrais quand même dire au départ qu'on rencontre encore sur le terrain beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont passionnés par leur métier, qui ont bien sûr des difficultés, mais qui sont heureux de ce métier pour deux ou trois raisons. La première, c'est qu'ils sont indépendants dans l'exercice de leur métier. C'est une vraie force, être patron chez soi, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Et certains l'apprécient beaucoup. La deuxième raison, c'est que le métier d'agriculteur offre aussi un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale qui est assez, assez singulier. Et puis la troisième raison qui conduit à ce qu'il y ait aussi des agriculteurs satisfaits de faire ce métier, c'est qu'ils ont une inscription dans un monde rural qu'ils connaissent bien, qu'ils souvent ils y sont depuis longtemps. Et ils ont aussi des valeurs de rapport à la patience, à la résistance, au travail et tout ça, qui font qu'on trouve encore des jeunes agriculteurs. Et je voudrais terminer ce propos un peu
bien
positif.
Bien sûr, mais d'abord, malheureusement, c'est pas la majorité. Vous avez raison de le rappeler, mais c'est loin d'être la majorité. Et par ailleurs, les valeurs qu'ils défendent, on leur reconnaît assez rarement. Il y a aussi, et ça c'est peut-être un point qu'il va falloir évoquer aussi, de la part des agriculteurs, un sentiment que, au fond, leur place et leur rôle n'est pas reconnu à leur juste valeur. Il y a ces derniers mois un terme qui est apparu dans le paysage médiatique politique, c'est celui d'agribashing, c'est-à-dire ce dénigrement dont les agriculteurs feraient l'objet, font l'objet d'ailleurs, je ne devrais pas utiliser le conditionnel. Est-ce que vous ne sentez pas quand même, Vincent Châtelier, je poserai la même question à Pierre Bitoun, qu'il y a effectivement une aggravation, une augmentation de des attaques, des dénigrements à l'endroit des agriculteurs?
C'est une absolue réalité, c'est-à-dire les propos d'introduction sur le caractère optimiste de certains ne doit pas m'amener à dire qu'il n'y a pas de malaise. Le malaise, il est extrêmement profond. Et parmi les éléments du malaise, il y a évidemment la qualité, je dirais la qualité du dialogue avec la société civile aujourd'hui. Donc les agriculteurs ont le sentiment de ne plus être compris, en fait. Alors il y a plein de raisons à ça. Notamment parce qu'ils sont plus majoritaires dans les communes. Vous avez des communes où il vous reste 2-3 agriculteurs. En fait, l'agriculteur est totalement isolé, en fait, il est mal compris et il est entouré de plus en plus de personnes qui ont une distance à l'acte de production. Soit parce qu'ils viennent des villes, soit parce qu'ils ont fait d'autres métiers. Et donc la qualité du dialogue n'est plus au rendez-vous. Et puis il y a aussi le sentiment peut-être, qui est lié à la profonde restructuration du secteur, le sentiment de se sentir seul aussi dans face aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est-à-dire qu'il y a moins de partage, il y a moins de solidarité, il y a moins d'entraide. Il y a une puissance aussi moins forte de la religion dans les nouvelles générations d'agriculteurs, si bien que l'agriculteur a moins de lieux pour exprimer son malaise et puis aussi défendre les idées auxquelles il croit. En fait, l'isolement conduit, alors c'est valable en France, mais c'est valable dans de très nombreux pays européens, ouais. ces questions-là.
Pierre Bitoun, sur cette question, alors j'ai utilisé ce terme d'agribashing pour se demander s'il y a effectivement une montée en puissance ou pas.
Si vous voulez, c'est un peu un terme, moi, qui me gêne dans la mesure où il couvre des réalités, où il recouvre des réalités extrêmement différentes. Vous avez des paysans, et Dieu sait qu'on les a traités comme des ploucs, des retardés, des arriérés pendant des décennies, qui aujourd'hui, le terme paysan a repris des couleurs, a repris
Je parle pas du terme paysan, je parle pas de tout ça. Voilà. Je parle au fond du modèle productiviste qui va arrière. Parce que quand on les vise, on considère qu'ils sont les...
Ce qui est en cause...
Qu'ils sont les vecteurs de ce productivisme agricole.
Ce qui produit des faillites, des suicides, des burn-out, etc., un désastre, c'est quoi? C'est un modèle productiviste, industrialiste de l'agriculture, d'ailleurs qui ne concerne pas simplement l'agriculture, mais l'ensemble de notre société, qui est soumise à un capitalisme productiviste accéléré depuis maintenant 70 ans, qui a démarré... en trouver les sources bien avant, mais qui, dès l'immédiate après-guerre, est devenu de plus en plus fort, a démantelé, détruit les sociétés paysannes et rurales qui existaient, au travers de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, en mettant le terme glorieux entre guillemets, et qui continue aujourd'hui encore, depuis 40 ans, dans ce que nous avons appelé avec Yves Dupont les 40 honteuses de l'ère néolibéral. Et ce système d'industrialisation, de l'agro-business, continue grâce aux fermes-usines, grâce aux laboratoires de technologie, grâce aux traités internationaux, TAFTA, CETA et compagnie. Et qu'est-ce qui se passe pour la grande majorité des agriculteurs? C'est au fond qu'ils sont soumis constamment à une performance technique, à une mise en concurrence accrue. Auparavant, pendant les Trente Glorieuses, c'était l'achat des tracteurs. Aujourd'hui, c'est la robotisation, les robots laitiers, etc., etc. Tout ça est une machine infinie qui fait que on se retrouve face à des situations, on pourrait prendre un autre chiffre qu'on n'a pas évoqué. En France, il y avait au sortir de la guerre à peu près 36% de la population active française qui était dans l'agriculture. Nous n'en sommes plus qu'à 2 ou 3%. Au niveau européen, je rappelle juste sur 2007-2017, il a disparu près de 4 millions d'exploitation agricole sur l'Europe des l'Union européenne des
d'exploitation
28,
ou d'exploitation
d'exploitation. Bon, et par ailleurs au niveau mondial, vous avez, pour reprendre des
donc ça veut dire
chiffres
que, pardon,
de population,
mais ça veut dire que les exploitations se sont agrandies,
alors,
mais diminuées,
bien évidemment,
c'est ça.
Que tout ça, il y a les éliminés les éliminés de ce qu'on appelle entre guillemets le progrès, mais avec des désastres sociaux, avec des désastres dans les déserts ruraux qui se sont créés, c'est tout ça qui est en cause. Et au niveau mondial, il faut absolument tenir compte aussi de cela, puisqu'on est dans une émission Culture Monde. Il y avait en 1950, 80% de la population active mondiale était dans l'agriculture. Vous savez combien il en reste aujourd'hui? 40%. Et ces tendances lourdes, mais historiques et lourdes, se poursuivent avec quelques petits accommodements, avec quelques petits amortisseurs, etc. Mais fondamentalement, toutes les politiques publiques et les puissances privées de la grande distribution, etc., etc., et de l'industrie, des industries en amont et en aval de l'agriculture, favorisent ces tendances lourdes et les accélèrent.
Alors justement, voyons ce qu'en dit l'économiste Vincent Châtelier, parce qu'effectivement, on entend très souvent ce discours de dénonciation du libre-échangisme, des politiques. Non, mais ce n'est pas un jugement de valeur. Il existe, il est là.
Heureusement d'ailleurs qu'il est là.
Et je voudrais qu'on le fasse analyser par Vincent Châtelier, qui serait donc ces politiques européennes largement responsables de cette crise, qui aurait organisé d'une certaine manière cette compétition mortifère entre les agriculteurs européens, même que évoquait Pierre Bitoun à l'instant. Jusqu'où est-ce qu'on peut incriminer Vincent Châtelier l'Europe et la politique agricole commune, selon vous?
Alors en France, on a souvent utilisé la PAC comme bouc émissaire de beaucoup de choses, parce que finalement, ça permettait aux différents ministres de l'agriculture de dire que les problèmes venaient d'ailleurs. Alors ça a été très pratiqué dans les années 70 jusque, je dirais, 2000, où on disait que s'il y a un problème dans la paysannerie et dans le monde agricole en France, c'est largement lié à des choix qui viendraient d'ailleurs, qui seraient prises par des eurocrates qui n'auraient rien compris, je dirais, à ce qu'on doit faire. Et donc, quelque part, il a été bien pratique, en fait, pour les politiques publiques en France de dire que l'Europe était responsable de la restructuration du secteur. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que effectivement, on est dans une période de libre-échange, dans une période où on est très dépendant de l'extérieur, et où cette dépendance pose un certain nombre de questions. Mais si on en revient à l'agriculture française, donc
qu'est-ce
la restructuration...
Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est qu'au fond, c'est moins le modèle agricole européen qui poserait problème, mais le modèle agricole français dans cette Europe qu'on décrit, Vincent Châtelier, c'est ça qu'il faut comprendre?
Non, parce que aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne, vous avez eu une restructuration, si ce n'est plus vive que la nôtre. Donc, le problème de la restructuration, il est général. Il n'est pas lié uniquement à la politique agricole commune. Là où il reste des agriculteurs en nombreux aujourd'hui, où il y a des questions sociales importantes, c'est dans les pays de l'Europe de l'Est, qui ont rejoint l'Europe en 2004. En Roumanie, aujourd'hui, vous avez 1,5 million d'emplois en agriculture. En Pologne, vous avez 1,9 million d'emplois. Quand en France, qui est le premier pays agricole, et de loin, puisque la France fait 18% de la production agricole européenne, on est à peu près à 710 000 emplois dans les exploitations agricoles aujourd'hui. Donc c'est évidemment un recul très fort par rapport aux années 50. Il reste 430 000 exploitations en France, dont 300 000 font 97% de la production agricole. Donc c'est vrai que la restructuration, elle a été là. De là à dire que nous aurions basculé dans des fermes-usines, je ne partage pas ce qualificatif. Je pense qu'on a une agriculture, en France en tout cas, qui reste très largement familiale.
Sauf que Vincent Châtelier, on a une agriculture française qui se porte pas très bien. J'ai pris les chiffres pour l'année 2016. Sur l'année 2016, la production agricole française, elle a connu un recul de 6,5%. Moins 4,4% pour l'Italie, moins 3,3% pour le Royaume-Uni, moins 2,2% pour l'Allemagne. Et pour cette même année, l'année 2016, vous parliez de la Pologne, augmentation de 4,6%, 2,9% en augmentation pour l'Espagne, 0,9% en Roumanie. C'est que, on voit bien là tout de suite se dessiner une carte à travers laquelle certains pays tirent bénéfice au fond des politiques agricoles européennes, alors que d'autres, eh bien, semblent plutôt ne pas y parvenir. Ça semble assez clair.
Je voudrais.
Pierre Bitoun, et je vous rends la parole, Vincent Châtelier. Pierre Bitoun.
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème sur la politique agricole commune?
Non, mais d'abord, moi je n'ai pas dit que c'était la politique agricole commune qui était la seule responsable. La politique, d'ailleurs, les institutions européennes.
Il y a beaucoup de responsables, est-ce qu'elle pose problème?
Bien sûr qu'elle pose problème.
En quoi?
Elle pose problème parce que 80% des aides distribuées par la PAC vont à 20% des agriculteurs, et qu'il existe d'autres politiques possibles, notamment qui sont celles proposées depuis des lustres par la Confédération paysanne, et que bien évidemment pour qu'on puisse les mettre en œuvre, il faut à la fois dans les esprits et dans la réalité, qu'on puisse changer de politique, qu'on passe de ces aides à l'hectare qui vont massivement à des au plus gros et au plus attentif, et qui ne tiennent d'ailleurs, cette agriculture ultra spécialisée, industrialisée, etc., ne tient que grâce à ces subventions. Il faudrait y substituer les aides aux actifs, une autre répartition des aides de l'Europe qui serait la pourvoyeuse d'un nouveau modèle d'agriculture qu'on appelle l'agriculture paysanne, agriculture biologique, etc., etc., sous toutes ses formes, avec une relocalisation des circuits de production, avec les circuits courts, etc., etc. Tout ça doit absolument être la base d'un changement de cap complet. On vous parle aujourd'hui, comme dit notre cher président, je ne changerai pas de cap, globaliser le problème. La question en agriculture comme ailleurs, c'est que préciser, particulièrement en agriculture, c'est qu'il faut changer de cap et que c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreux travaux d'agronomes comme Marc Dufumier, comme plein d'autres, qui montrent qu'il est possible de passer de généraliser un modèle d'agriculture paysanne et de sortir progressivement de cette agriculture productiviste qui trie, qui élimine, qui rend les gens malades eux-mêmes. Ceux qui le font sont de plus en plus endettés, sont de plus en plus malades, attrapent, parce qu'ils continuent hélas d'être obligés pour répondre à leurs emprunts, ils sont obligés d'utiliser des entrants chimiques. Certains essayent de décélérer, mais ça suffit pas. Voilà.
Ils n'ont pas véritablement d'alternative.
Ils n'ont pas véritablement d'alternative, et l'alternative ne peut être qu'une question politique qui se pose à la fois au milieu agricole, mais qui s'oppose à la société dans son ensemble.
Alors on va voir justement si on pourrait changer de cap, et on va parler tout à l'heure de projet de réforme de la PAC, parce qu'il va falloir penser justement comment on met en place de nouvelles politiques après 2020, pour la période 2021-2027, et la Commission européenne a déjà fait des propositions sur ce point. Mais Vincent Châtelier, pour poursuivre un tout petit peu sur l'état des lieux, j'allais dire, et on va peut-être s'appuyer sur un secteur en particulier que vous connaissez très bien, c'est celui du lait, qui a été ces dernières années très régulièrement touché par des crises. Il y a eu des grosses crises 2009-2015, mais au fond, on a une crise là qui est systémique. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier ouvrage de Michel Houellebecq, Sérotonine, mais on retrouve justement un personnage dedans qui s'est lancé dans l'élevage de vaches laitières, Émeric Darcourt-Rollon, un digne héritier de l'aristocratie locale, ancien étudiant en agronomie, comme le narrateur et héros du roman Florent-Claude Labrousse. Et cet éleveur, il s'en sort absolument pas, alors qu'il dépense énormément de temps et d'énergie pour le faire, et pour faire surtout les choses comme il faut. Il dit dans le roman, plus j'essaye de faire les choses correctement, moins j'arrive à m'en sortir. Pourquoi, dans le secteur laitier, lorsqu'on fait les choses correctement, on s'en sort pas? Qu'est-ce qui dysfonctionne, Vincent Châtelier, vous qui avez beaucoup étudié ce secteur laitier?
Aujourd'hui, il reste en France 55 000 exploitations laitières. On en avait 380 000 en 1984, quand on a mis en œuvre les quotas laitiers. Donc on a divisé le nombre d'exploitations par 7, et on a divisé le cheptel de vaches laitières, c'est moins connu, par 2, puisque la productivité à l'animal a considérablement augmenté.
Ça, c'est une responsabilité vraiment directe de l'Europe et de la PAC?
Pour ce qui est de la productivité animale, c'est essentiellement lié à la génétique. Et pour ce qui est de la restructuration globale, pour la France en tout cas, c'est qu'on fait en fait en France aujourd'hui la même quantité de lait qu'en 1980. On n'a pas augmenté la production. Mais pour faire cette production, on a eu besoin de moins d'agriculteurs, parce que effectivement, chaque agriculteur a beaucoup investi et a aussi, dans la période récente, accédé à des mécaniques de robotisation qui permettent d'améliorer la productivité. Donc on a 55 000 producteurs de lait aujourd'hui. Alors en 2019, la situation est nettement mieux qu'en 2016. Donc faut faire attention, parce que il y a des phénomènes très cycliques dans l'économie agricole. Il y a des périodes où ça va pas du tout, comme 2016. Puis il y a des périodes où ça va mieux. Et ça va mieux, par exemple, dans certains secteurs, comme aujourd'hui, le lait biologique se porte plutôt pas mal en France, même s'il représente que 5% des volumes globaux. Donc il faut être très, comment dire, très prudent dans l'analyse de l'économie de ce secteur, puisqu'il y a des périodes où ça va mieux. Alors c'est vrai que cette restructuration, elle pose d'énormes problèmes sur le terrain, parce que finalement les producteurs deviennent de plus en plus isolés. C'est ça qui pose problème. De là à dire que les producteurs de lait gagnent pas leur vie, il faut être très précis. Là, on a la chance à l'INRA de faire une étude pour le ministère de l'Agriculture qui nous a demandé un rapport pour la fin de l'année sur les revenus en agriculture. Donc, on va regarder ça de manière très précise. Il y a de tout. Il y a une hétérogénéité des performances économiques dans ce secteur qui est extraordinaire. Vous avez des rapports de 1 à 3 dans les niveaux de revenus pour des mêmes volumes de production. Et c'est vrai que la remarque de tout à l'heure, la taille ne fait pas uniquement la performance. Vous avez des grandes entreprises, des grandes exploitations laitières qui aujourd'hui ne parviennent pas à rémunérer leurs actifs pour des questions d'endettement. Mais je voudrais quand même revenir sur le mot ferme-usine. Dans le lait, on en a très peu en France. On a 4% des vaches laitières qui sont localisées dans des étables de plus de 200 vaches. Alors, si vous êtes en Nouvelle-Zélande, puisqu'on parle du monde, la moyenne, c'est 400 vaches. En France, on n'a que 4% qui sont au-dessus de ça. Aux États-Unis, vous avez la moitié du lait, c'est pas un modèle, mais vous avez la moitié du lait qui résulte de fermes de plus de 1000 vaches. Donc moi, je tiens vraiment à dire que en France, mais aussi dans de nombreux pays en Europe, on demeure encore dans une agriculture de type familial. Et il y a très peu de salariats, par exemple.
Et on peut maintenir, ce modèle sans signer la mort de ce secteur?
Alors, ce secteur n'est absolument pas mort. La France produit 24 milliards de litres de lait.
J'entends bien, mais quel avenir il a?
Et on exporte, on exporte 42% de notre production en France. On est un très grand pays exportateur de produits laitiers. Nos exportations représentent 42% de nos volumes, c'est-à-dire 7 milliards d'euros par an. Nous avons une balance commerciale de 3,5 milliards positifs. Donc c'est un secteur très vivant. Et puis à côté de ça, nous avons aussi une diversité de produits, y compris fromagères, exceptionnelle.
Bon, alors j'entends parfaitement Vincent Châtelier. L'idée, c'est que tout va bien dans le secteur agricole. Pierre Bitoun.
Non, il a pas dit ça là. Vous caricaturez.
Non, je caricature un peu, volontairement.
Je ne suis pas d'accord avec lui.
Il dit quand même, visiblement.
Ce que je veux dire,
c'est qu'il y a pas crise systémique, une crise conjoncturelle.
Mais bien sûr qu'il y a une crise. C'est pas une question. Le terme crise est un mauvais mot. Parce que il y a une mutation permanente, ou alors une crise permanente, cet oxymore, une crise permanente qui aboutit systématiquement à concentrer, éliminer les autres, utiliser, profiter de l'élimination des autres pour agrandir la taille des exploitations dans quelques types de production. Et c'est ça le processus fondamental de l'industrialisation, avec des tas de conséquences sur les pollutions, sur les déserts ruraux, sur la vie des gens, etc. Et c'est pas parce qu'on a des résultats entre guillemets mirobolants sur la valeur ajoutée, la balance commerciale, etc. Il faut se poser la question de savoir à quel prix on a ces résultats.
À quel prix social?
Quel prix social, quel prix humain, quel prix en type de qualité des produits.
Et à quel prix, pour le secteur laitier, à
tous les niveaux, c'est-à-dire y compris pour l'ensemble de la population et les problèmes sanitaires et les problèmes de pollution des rivières et le problème des pollutions des sols. Ce modèle productiviste, en réalité, est à bout de souffle. Il ne fait qu'engendrer des problèmes permanents de plus en plus graves, que ce soit sur le plan de, je sais pas, la crise de la vache folle, l'épuisement des sols, etc., etc. Tout ça, il suppose que effectivement on invente et que on puisse mettre en place une autre politique agricole commune, une autre politique agricole française. Mais pour ça, il faut changer les responsables. Il faut plus que ces responsables soient acoquinés à la grande distribution, par exemple. Aujourd'hui, vous avez 75-80% de l'approvisionnement alimentaire dans notre pays, et c'est même pire au niveau européen, qui est monopolisé par 4 centrales d'achat qui sont, en gros, les multinationales de l'alimentaire. C'est tant que vous ne remettez pas en cause ce pouvoir-là, vous aurez des paysans ou des éleveurs ou n'importe qui vont être pressurés, qui vont obtenir quoi de Lactalis 0,33 cents le litre, alors que leurs coûts de production sont beaucoup plus élevés. C'est tout ça sur lesquels il faut totalement changer de cap et bouleverser de fond en comble nos institutions, qu'elles soient nationales ou supranationales, européennes ou mondiales.
Alors justement, à Bruxelles, on est en train de préparer la suite parce que la PAC actuelle, elle couvrait la période 2014-2020. Donc on est en train de penser à la période 2021-2027. Il se trouve que le 1er juin dernier, la Commission a présenté ses propositions. Je propose d'abord d'écouter Phil Hogan, qui est donc le commissaire européen de l'agriculture et du développement rural. C'était il y a quelques semaines, à peine quelques jours, c'était le 28 janvier dernier. Écoutez.
Nous allons passer d'une approche fondée sur les normes à une approche basée sur la rentabilité, comme vous me l'avez entendu dire à maintes occasions. Nous allons devoir être en mesure de garantir que l'argent provenant des taxes va bien être dépensé. Il est désormais clair qu'il y a consentement à propos des mérites de l'approche basée sur la rentabilité, et nous allons pouvoir discuter de sa mise en œuvre. Nous allons désormais nous concentrer sur les mesures plus précises concernant les États membres auxquels ils devront se référer, et j'ai indiqué que nous travaillons actuellement à donner le plus de détails possible dans les proches semaines afin de clarifier ces enjeux. En ce qui concerne la crise des réserves agricoles, l'enjeu pour moi est d'arriver à un système qui soit plus efficient, car nous voyons bien actuellement que ce système ne fonctionne pas.
Alors, on va commencer avec vous, Vincent Châtelier. On va faire un petit travail de pédagogie pour essayer de comprendre d'abord ce qu'il y a dans ce projet de réforme de la PAC. Il se trouve que la semaine dernière, le Sénat a sorti un rapport transpartisan, je l'indique, dans lequel, eh bien, on fustige ces propositions de la Commission, considérant qu'elles risquaient de susciter des distorsions de concurrence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette PAC et qu'est-ce qui pose problème aux sénateurs et sénatrices françaises? Vincent Châtelier, on va commencer avec vous.
Bon, d'abord, des réformes de la PAC, il y en a tous les 7 ans. On a eu 92, 99, 2003, 2008, 2014, et en fait, on est en train de discuter, alors même que
Qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci
est en œuvre, on est en train de discuter de l'avenir. À chaque fois qu'il y a eu des réformes, on nous dit, ça va être le grand soir, on va tout changer. Et à chaque fois, on a été déçus. Alors, je pense que dans cette réforme, il n'y a pas grand-chose de neuf. On est en train d'écrire un ouvrage à l'INRA sur ce thème pour la fin de l'année. Il n'y a pas grand-chose de neuf pour l'instant, si ce n'est un risque de transférer aux États membres une grande partie de la mise en pratique des politiques agricoles. Et donc les sénateurs contestent quelque part le fait que la PAC va devenir de plus en plus à la carte. C'était une PAC commune, on avait un projet commun entre les États membres autour de cette politique. Et là on voit, aussi parce qu'on a du mal à s'entendre, on voit que le risque serait que les États membres aient une plus grande latitude dans l'application des futurs dispositifs. Et ça pourrait conduire à ce que certains États fassent le choix qui est évoqué tout à l'heure, d'une agriculture, on va dire, plus territoriale, plus qualitative, et puis d'autres pays qui, finalement, s'orienteraient vers une vision beaucoup plus économique. Et donc le risque, en fait, c'est le risque d'un délitement de l'idéal européen derrière notre agriculture. Et c'est la raison pour laquelle la France ne partage pas cette vision-là. Elle en mesure aussi les risques, parce que ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait juste. La France fait partie des pays européens qui n'augmentent plus leur production agricole depuis 20 ans. Et nous avons à côté de nous des pays d'ailleurs beaucoup plus intensifs sur leur pratique à l'environnement, hein, beaucoup plus intensifs comme les Pays-Bas, la Pologne, qui aujourd'hui sont en plein développement de leur agriculture, alors même que leurs ressources naturelles sont parfois un peu plus limitées que les nôtres.
Et quand on est un tout petit peu plus, si on regarde un peu les choses de façon purement pragmatique, pour le coup, j'entends ce que vous dites sur l'évolution peut-être de la vision, de la philosophie de cette politique agricole commune, mais il y a quelque chose de très pragmatique, c'est que les budgets européens pour l'agriculture vont diminuer. Et ça a des conséquences très nettes, en particulier pour l'agriculture française. Non, mais disons les choses. Et par ailleurs, pour des raisons qui sont peut-être louables, hein, je ne juge pas, mais ça va diminuer au profit d'autres postes. La question de la sécurité des frontières, dont on parle beaucoup, la question de la lutte contre le terrorisme, et donc comme on ne peut pas mettre l'argent partout, on a décidé d'en mettre moins sur l'agriculture. Et ça gêne un petit peu cette commission sénatoriale. C'est aussi un des problèmes, Vincent Châtelier, disons les choses.
Précisément, le budget pour la PAC sur la période 2021-2027 devrait baisser en valeur constante de l'ordre de 15% par rapport à la programmation antérieure. Vous savez que c'est prévu sur 7 ans. 2014-2020. Donc une baisse de 15% des fonds à l'agriculture. Je pense pas que c'est ça qui doit être au cœur de la réflexion du moment. Parce que parallèlement, ça a été dit tout à l'heure, on a une forte restructuration du monde agricole. Donc la baisse des budgets doit pas cristalliser toute l'attention. Ce qui doit cristalliser l'attention, c'est où va le budget résiduel. Et qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent pour les agriculteurs de demain? C'est ça la question.
Oui, sauf que quand les subventions baissent et que les agriculteurs français dépendent énormément de ces subventions, pour eux, la question, elle est directe. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on baisse les budgets, il y a une question survie pour eux. Pierre Bitoun, et je vous redonne la parole, Pierre Bitoun. Je fais circuler un petit peu, hein, permettez-moi. Oui. Pierre Bitoun.
Ma réaction par rapport à ce que vous avez passé, là, comme le commissaire...
Philogan, le commissaire européen.
Ma réaction, c'est la novlangue. Néolibéral, mais dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il nous fait le coup d'opposer les normes et la rentabilité. C'est-à-dire, bon, il jette des gadgets de pensée, en fait, comme si la question des normes n'était pas au cœur, et la prégnance des normes n'était pas au cœur du processus d'industrialisation depuis des décennies, et au cœur des politiques européenne et au cœur des politiques nationales. Lorsque vous dites, il faudra que toutes les exploitations laitières aient un tank à lait, et puis ensuite qu'elles aient des robots laitiers pour les concentrer, pour que la collecte du lait soit plus pratique, et que le lait devienne plus une marchandise pour les multinationales et la grande distribution, que ce soit d'ailleurs sur un modèle coopératif ou carrément sur un modèle de type industriel privé, vous êtes dans la construction de normes qui peuvent être normes techniques, qui peuvent être des normes environnementales, des normes sanitaires, qui pèsent de plus en plus sur les paysans, qui les trient, qui en éliminent une partie et qui poussent les uns et les autres au nom de la norme, au nom d'une performance de technique ou sanitaire, etc., à rester. Et bien évidemment, tous ceux que l'on évacue, tous ceux que l'on supprime, il y en a un certain nombre qui finissent tragiquement parce qu'ils n'en peuvent plus. Regardez, pour revenir au début de notre conversation, ce qui est évoqué parmi les causes du suicide des paysans, c'est certes l'isolement, le célibat, etc., mais c'est aussi la perte du sens du métier, c'est la pesanteur, les contraintes liées aux normes, à la bureaucratisation du métier d'agriculteur.
Quelque chose qu'on entend beaucoup dans les discours,
énormément. Très très fréquemment. Mais attention, les normes, ce sont des leviers de la transformation, ce sont des leviers de la mutation agricole qui industrialisent progressivement le secteur et fait disparaître un certain nombre de paysans. Voilà comment le système fonctionne. Donc,
les normes au cœur de cette transformation.
Les normes sont au cœur de cette transformation depuis le début. Dans les années
d'après-guerre. Et quoi qu'il arrive avec la nouvelle PAC, il va y avoir encore
y
plus de normes. Donc on est toujours dans le même processus.
À tel point que vous avez un certain nombre de paysans, petits paysans, qui aujourd'hui s'installent. Ils en ont ras-le-bol des normes et ils s'installent, comme on dit, hors normes. Parce que ils en ont marre de ce système. Alors c'est évidemment une infime minorité, mais c'est un indice.
C'est un phénomène qui est là, symptomatique
de cette industrialisation qui s'opère par ce biais-là des normes, mais qui s'opère aussi par les inégalités dans le financement et par mille et un autre biais qui serait trop long d'évoquer ici.
Vincent Châtelier, je vous laisse poursuivre et puis ensuite on écoutera une nouvelle intervenante sur les conséquences du Brexit pour les agriculteurs britanniques. Mais d'abord, je vous laisse poursuivre. Vous vouliez réagir, Vincent Châtelier.
Donc aujourd'hui en France, on a à peu près 30 000 euros d'aide directe par an et par exploitation. Donc sans ces aides directes de la PAC, vous avez toute une catégorie d'agriculteurs, peut-être la moitié, qui n'aurait absolument plus la capacité à suivre. Et c'est vrai que dans le malaise paysan, il y a aussi ce sentiment d'injustice de faire un métier dans lequel, pour en vivre, on devient dépendant des aides. Cette dépendance, elle n'est pas généralisée à tous les secteurs de l'agriculture.
Comment on peut sortir de ce sentiment de dépendance et de cette dépendance tout court, d'ailleurs?
Mais je pense qu'on va pas en sortir avant 2027, puisqu'il est prévu précisément que le budget de la PAC va continuer. La France va capter encore à peu près 20% d'un budget qui va baisser de 15%, mais au global, du fait de la restructuration des exploitations, le montant d'aide par exploitation et par emploi, il sera supérieur en 2027 à ce qu'il est aujourd'hui.
Et les politiques nationales
ne peuvent rien. Puisque la restructuration est plus rapide que la décroissance budgétaire.
Les politiques nationales ne peuvent rien, ne peuvent pas permettre d'aider à sortir de cette dépendance.
Ah, bien sûr, il y a des secteurs entiers aujourd'hui.
Il y a des exemples de pays membres qui ont réussi à sortir justement de cette dépendance.
Oui, en fait, c'est pas lié au pays, c'est lié surtout aux productions que vous faites. Donc, quand vous faites de l'horticulture, du maraîchage, de la viticulture, du porc, de la volaille, vous êtes dans des productions qui, historiquement, avaient fait l'objet de peu de soutien de la part de la PAC. Et donc, vous pouvez avoir une très grande partie de votre chiffre d'affaires qui est absolument pas dépendante des soutiens publics. C'est pas le cas du tout pour les secteurs laitiers. Les exploitations laitières qui reçoivent le plus d'aide en Europe, ce sont les Danois. Ce sont précisément les plus grosses fermes laitières, puisque les aides ont été attribuées sur la base des facteurs de production, c'est-à-dire la taille de l'entreprise. Donc même dans les pays les plus libéraux, les plus orientés vers le marché, les agriculteurs sont aussi assez dépendants dans certaines productions des aides. Donc c'est pas un positionnement pays. Au demeurant, en France, vous avez des secteurs de l'agriculture, par exemple en agriculture biologique, en maraîchage, etc. Quand vous croisez des productions et des styles de production, vous pouvez devenir, en circuit court, moins dépendant des soutiens publics dans votre rentabilité. Donc il y a vraiment une multitude de positionnements, mais c'est vrai que massivement, les agriculteurs français sont très dépendants de ces aides. Et ils ont un sentiment d'injustice, parce qu'en fait, il faut être très concret, le budget de la PAC, c'est 55 milliards divisé par 500 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est 100 euros par an et par personne. C'est-à-dire que si les Européens payaient 100 euros plus par an leur alimentation, c'est-à-dire pas grand-chose, 30 centimes par jour, il n'y aurait plus d'aide à l'agriculture. Donc tout est relatif.
Pierre Bitoun, vous voulez réagir?
Que la production agricole, le secteur agricole, soit forcément un secteur à aider. Ça tient à plein de raisons, sur le travail, les effets de cycle, etc., dans l'agriculture. Mais ça tient aussi à quelque chose de fondamental, qui est que dans une société qui est dominée par le rapport du capital et du travail, une société capitaliste, autrement dit, il faut constamment, pour éviter l'augmentation des salaires de l'ensemble des salariés d'une population, il faut faire pression à la baisse ou freiner au maximum les prix agricoles. Parce que ça évite, évidemment, d'être obligé, si vous avez des prix agricoles qui s'élèvent, il faut concéder ou accorder des salaires plus élevés à l'ensemble de la population. Et ça, c'est une loi, je dirais, d'airain de notre système. Maintenant, là où on a été dans un excès absolument incroyable, c'est que par les systèmes de concurrence, on a rendu dépendant par une concurrence généralisée, par le libre-échange, pour aller vite, on a de plus en plus utilisé des subventions pour maintenir ce cap de cette loi d'airain, et pendant le même, alors qu'on aurait pu avoir des prix beaucoup plus rémunérateurs. Il y a une donnée absolument fondamentale qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous prenez un indice 100 en 1970, pour les prix agricoles payés aux producteurs, les prix moyens, vous êtes aujourd'hui à 45 ou 46 en monnaie constante. Ce qui veut dire que la pression est constante et que, bien sûr, ce chiffre, qui est une pure statistique, mais derrière, ça veut dire des réalités sociales, des réalités humaines, où on fait constamment pression, et notamment aussi bien par l'inaction de l'État le laisser aller, le laisser faire de la grande distribution qui négocie en direct les prix avec les producteurs dans un rapport d'inégalité totale.
Alors messieurs, on va continuer à parler d'agriculture et d'Europe. Vincent Châtelier, Pierre Bitoun, on est avec vous. On parle toute cette semaine des travailleurs de la terre. Aujourd'hui, vivre de la terre, l'Europe aux racines du malaise paysan. On va parler de la Grande-Bretagne dans un instant.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous sommes totalement dépendants des subventions européennes pour survivre.
Et vous avez quand même voté Brexit?
Oui, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de doutes sur mon vote. Je ne crois pas que les politiciens nous aient menti, mais ils ont été naïfs. Et nous, on ne pouvait qu'écouter les gens qui sont censés en savoir plus que nous.
Voilà, donc une agricultrice britannique en Cornouailles qui a voté pour le Brexit, extrait d'un reportage diffusé en novembre 2017 sur France 2. On va retrouver Carmen Hubbard, qui est économiste à l'Université de Newcastle au Royaume-Uni. Elle dirige un groupe d'études qui s'intéresse aux conséquences du Brexit sur le secteur agricole. Il faut se souvenir qu'en 2016, les agriculteurs avaient majoritairement voté pour une sortie de l'Union européenne. 56% d'entre eux étaient pour le livre. Mais aujourd'hui, alors qu'il reste à peine plus d'un mois à la Grande-Bretagne pour quitter l'Union et qu'aucun accord ne se dessine, eh bien ce monde agricole a toutes les raisons d'être inquiet. Alors qu'en pensent les agriculteurs aujourd'hui? Quelles seront les conséquences pour les différents secteurs? Carmen Hubbard nous explique. Elle est au micro de Samuel Bernard.
Les sondages ont montré en effet que les agriculteurs ont farouchement voté contre l'Union européenne. Cela s'explique tout particulièrement par les effets du système bureaucratique de l'Union et des règles de la politique agricole commune qui ont eu beaucoup d'effets sur les activités agricoles. Par exemple, les règles qui concernent la culture arbustive qui oblige à planter des arbres aux abords des champs, eh bien, elle a été vue comme un fardeau très lourd pour la plupart des fermiers britanniques. Mais au-delà de ces considérations agricoles, pour comprendre ce vote, il faut aussi mettre dans la balance les questions migratoires et cette idée qui consiste à dire « reprenons le contrôle de notre pays ». C'était l'ambiance à l'époque, mais aujourd'hui les choses ont changé, du moins en apparence. Une des raisons tient à la sortie publique des industriels du secteur. Ils se sont exprimés dans une lettre qui est parue cette semaine. Elle était signée par 35 représentants du monde agricole, alimentaire et de la boisson du Royaume-Uni. Ils ont exprimé leurs vives inquiétudes et pour le moment, le sentiment général, c'est qu'il faut éviter le no deal, l'absence d'accord. Je pense que c'est une idée partagée chez tous les industriels du Royaume-Uni. Ce n'est pas seulement l'agriculture, l'alimentaire et la boisson, mais toutes les activités qui ressentent un véritable danger. Car c'est vrai que s'il n'y a pas d'accord, eh bien nous serons tous perdants. Pas seulement le Royaume-Uni, mais tout le monde y perdra.
Dans votre étude, Carmen Hubbard, vous étudiez différents cas de figure, dont celui du no deal. Et on comprend bien en vous lisant que dans cette situation, les agriculteurs vont subir de très lourdes conséquences. Dans le pire des cas, c'est presque un quart des fermiers qui pourraient faire faillite. Et vous dites que les conséquences seront très loin d'être uniformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va pâtir du Brexit? Est-ce que ça dépendra de la taille des fermes, du lieu, du type de production?
Non, effectivement, l'impact sera très loin d'être uniforme et variera selon le type de ferme. Donc, par exemple, on peut s'attendre à ce que les secteurs du bœuf et du mouton soient particulièrement touchés, contrairement au secteur laitier, de la volaille et les secteurs les plus importants. Si on considère qu'il n'y aura pas de deal, ce qui est la préoccupation principale, alors le Royaume-Uni devra se plier aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Dans ce cas, et c'est un scénario très protectionniste, il y aura de fortes taxes d'import. Ces taxes infligeront une forte pression sur le marché intérieur, ce qui produira une hausse importante des prix pour l'import de bœuf et en cochon. Nous verrons aussi un déclin des prix pour les producteurs de denrées exportées comme le mouton et l'orge. Ils seront très affectés par le type d'accord commercial qui sera choisi. Cela dépendra aussi du fait que le secteur soit un importateur ou un exportateur. Et évidemment, cela dépendra de la dépendance au paiement direct de la politique agricole commune. Et nous savons, par exemple, que le cochon et le laitier sont peu subventionnés et en dépendent donc peu. Tandis que le mouton ou le bœuf sont très subventionnés et en dépendent donc énormément.
Mmh.
Comme on le disait, Carmen Hubar, le poids des normes européennes aurait joué un rôle essentiel pour convaincre les agriculteurs à voter le Brexit. Mais qu'en sera-t-il en réalité? Si le Royaume-Uni sort de l'Union, les agriculteurs seront-ils véritablement libérés de ce lourd fardeau des normes européennes?
I would think that in the case of a no deal,
je pense que dans le cas où il n'y aurait pas d'accord, il y aura en fait un énorme fardeau sur l'agriculture et plus généralement sur l'économie britannique. Car sous les normes de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, les douanes et les contrôles réglementaires seront selon moi plus lourds encore, car nous devrons adopter les règles de l'Union européenne. Alors, certaines personnes diront « oui, mais ces règles existent déjà ». Certes, c'est vrai, mais ces règles ne sont pas contraignantes juridiquement. Donc, cela signifie aussi que ce n'est pas parce que nos standards sont identiques que l'Union européenne nous donnera nécessairement un bon accès au marché. La raison, c'est que, avec l'OMC, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers et l'Union traitera ce pays comme un pays tiers. Ils seront donc obligés de le traiter de la même façon que les pays comme la Corée du Sud ou n'importe quel autre pays. Donc, selon moi, les douanes et les contrôles réglementaires seront très importants, ce qui aura de lourdes conséquences.
Pour conclure, Carmen Hubar, je voudrais évoquer le cas des agriculteurs irlandais pour qui une absence d'accord rendrait les choses d'autant plus compliquées que leurs activités se déploient de part et d'autre de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et si une frontière dure apparaissait, combien de temps leur faudrait-il pour se réorganiser ?
Je
ne pense pas que nous verrons l'apparition d'une réelle frontière entre les deux républiques. On ne peut pas, c'est impossible. Je ne pense pas que les gens accepteront de voir une frontière apparaître. Vous savez, les secteurs agricoles du Nord et de la République d'Irlande sont très intégrés, très interdépendants. Il y a d'immenses flux entre les deux. Ça me paraît donc impossible. Les politiques vont devoir trouver d'autres solutions. Je sais qu'ils envisagent différentes technologies, de déplacer la frontière vers la mer d'Irlande, par exemple. Ils devront en tous les cas trouver une autre solution, parce qu'une nouvelle frontière me paraît absolument inenvisageable. Je ne vois pas de frontière dure, mais c'est mon opinion personnelle.
Carmen Hubar, de micro de Samuel Bernard, Carmen Hubar, qui est économiste à l'université de Newcastle au Royaume-Uni. Vincent Châtelier, que nous dit l'économiste sur ses conséquences du Brexit pour les agriculteurs britanniques? C'est intéressant ce qu'elle nous disait, Carmen Hubar, parce qu'elle nous disait, au fond, les Britanniques ne seront absolument pas libérés de ces terribles normes dont on parlait, qui sont à l'origine, Pierre Bitoun nous le rappelait, des transformations qui sont à l'œuvre dans ce monde agricole. Vincent Châtelier.
Je pense que c'était une présentation assez objective des problèmes que les Britanniques, et singulièrement le monde agricole, va rencontrer. Je pense qu'en fait, il y a deux difficultés. La première, c'est que le Royaume-Uni c'est le pays le plus déficitaire d'Europe au plan agroalimentaire. Ils ont un trou, une balance commerciale déficitaire de près de 27 milliards d'euros. C'est juste colossal. Et donc, ils sont très dépendants à l'achat. Et donc, les conditions dans lesquelles on va fixer l'arrivée des produits européens ou autres sur leur marché domestique, ben c'est évidemment extrêmement important. Alors elle parlait du secteur ovin, parce qu'il nous en exporte un peu, mais c'est un faible exportateur vers les pays européens, malgré tout, le Royaume-Uni. Et ça va poser des problèmes commerciaux très forts, comme ça a été bien souligné avec l'Irlande, puisque l'Irlande est aujourd'hui le principal fournisseur du Royaume-Uni dans tout un ensemble de produits, notamment d'élevage. Donc c'est tout à fait ça. Et puis le deuxième problème qu'elle a pas trop évoqué, qui est à mon avis très important, c'est que comme ils vont sortir de la PAC, ils n'auront plus les aides de la PAC qui vont être fixées, déterminées au niveau de Bruxelles, au niveau européen. Et donc ça veut dire qu'ils vont renvoyer la gestion des aides PAC aux agriculteurs à des débats internes nationaux, dans le contexte politique difficile qu'ils connaissent. C'est-à-dire que les agriculteurs sont absolument pas sécurisés, sur les 5 ou les 10 prochaines années, d'avoir les mêmes montants d'aide que ce que La PAC aurait prévu pour la période 2021-2027, comme je l'évoquais tout à l'heure.
Donc ils n'auront pas les avantages, mais en revanche, ils auront bien les inconvénients que sont les normes.
En tout cas, ils auront de la certitude.
Pierre Bitoun, allez, revenons au début des années 70, si vous le permettez. Je vous propose une petite archive d'abord, parce que là, on parle de la PAC, des politiques agricoles, la politique agricole commune, considérant, et évidemment, qu'elle est peut-être à l'origine d'une partie de ce malaise paysan qu'on décrit, mais si on revient à ces années 60-70, elle n'avait pas ses effets aussi négatifs. C'était cette Europe, une forteresse agricole européenne, où rien ou quasi ne rentrait, où les excédents de produits trouvaient forcément acheteurs à l'intérieur de l'Europe. Et pourtant, écoutez ce qui se passait déjà dans nos campagnes françaises.
Moi je suis à la ferme là. Qu'est-ce que vous faites?
J'ai des vaches, je m'en occupe.
Et vous pensez que ça va durer longtemps ou à un moment ou à un autre, il faudra que vous partiez?
Ça ne durera pas longtemps, il faudra que je parte, sûr.
Pourquoi?
Et parce que c'est pas rentable quoi. C'est trop petit puis. Je sais pas, mais ça vaut pas grand chose le terrain non plus.
Et ça vous embête de partir de Montboudif?
Un peu oui.
Pourquoi?
Parce que je suis né ici, je me suis élevé toute la vie ici. Puis je voudrais y rester, mais malheureusement, il faudra partir presque sûr.
Voilà, une archive de 1971, les jeunes de Montboudif dans le Cantal qui s'en vont. Ça fait plus de 50 ans, hein, Pierre Bitoun, qu'on parle de cette crise du monde paysan, que l'on prédit même sa disparition. En 1967, le sociologue Henri Mandras publie un ouvrage qui avait fait date la fin des paysans, dans lequel eh bien, il prédisait précisément la disparition de cette civilisation paysanne. Et pourtant, l'Europe, la politique agricole commune, n'était pas pointée du doigt comme on le fait aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui faisait que déjà à l'époque, on voyait poindre la crise?
La politique agricole commune, pendant un temps, qui est celui de l'immédiate après-guerre, est encore à peu près compréhensible, quoique parce qu'elle permet une organisation des marchés, des protections, des prix relativement rémunérateurs, etc. Mais de toute façon, dès l'origine, elle inscrit les agriculteurs dans un marché de plus en plus concurrentiel. Elle est une arme dans l'élimination d'une partie de la paysannerie et la mise en concurrence et la constitution d'agriculteurs et d'exploitations de plus en plus importantes, techniquement lourdes, avec des phénomènes d'endettement. Enfin, il faut jamais oublier, quand on parle de tout ça et de ce phénomène, ce processus d'industrialisation de l'agriculture, c'est aussi pour permettre à des firmes en amont d'aliments, d'engrais, de mécanisation, de construction de tracteurs qui doivent venir vendre leurs produits à des agriculteurs de plus en nombre de plus en plus réduit et de plus en plus performant, entre guillemets,
techniquement. Mais puisque les conditions de la crise...
Est accélérée au fur et à mesure du temps, et elle est aujourd'hui dans quelque chose qui est une impasse à tout niveau.
J'entends. Pierre Bitoun, il nous reste quelques secondes, je veux que vous répondiez à cette question. Puisque les conditions de la crise étaient réunies, pourquoi, au fond, les paysans n'ont pas lutté contre ce mouvement d'industrialisation que vous décrivez, puisqu'ils portaient sa propre mort?
Ils n'ont cessé de lutter. Si vous voulez, les paysans travailleurs dans les années 60-70, les paysans du Larzac, tous les paysans qu'on a, les différents groupes de paysans travailleurs qui ont créé en 1987 la Confédération paysanne, qui ensuite je vous signale que depuis... Dès les années 60-70, un certain nombre de paysans ont été parfaitement conscients des impasses du productivisme et se sont fédérés et ont créé, et je vous signale pour terminer, ils ont non seulement créé la Confédération paysanne en France, mais ils ont créé la Coordination paysanne en Europe, et ils ont créé Via Campesina, qui est le mouvement de contestation du capitalisme à l'échelle de la planète le plus important.
Merci infiniment Pierre Bitoun d'avoir été avec nous, ainsi que Vincent Châtelier en duplex depuis Nantes. Je remercie d'ailleurs les équipes d'avoir permis ce duplex. Pierre Bitoun, le sacrifice des paysans mettra ça sur la page de Culture Monde. Dans un instant, on retrouve Olivier Gesbert et la Grande Table.
Merci.